La vraie grâce, l'Esprit du Seigneur est sur moi, pour annoncer la délivrance aux captifs. Luc 4, 18. Ne savez-vous pas que vous êtes les esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui mène à la mort, soit de l'obéissance qui mène à la justice? Rome 6, 16, 19. Le texte en bleu clair ou en gras bleu clair peut être cliqué pour renvoi dans l'écriture ou pour des détails dans les écrits. Lorsque vous avez cliqué vers la Bible en ligne, vous pouvez changer et mettre à jour pour voir toute version de la Bible que vous préférez. Nous sommes tous d'accord que Jésus pardonne les péchés passés, mais Jésus est-il venu afin que nous puissions continuer à pécher sans culpabilité, ou est-il venu pour détruire notre péché? Jésus est-il venu libérer les captifs de la culpabilité, ou est-il venu nous libérer de l'esclavage du péché? Jésus est-il venu afin que nous puissions continuer à pécher sans culpabilité, ou est-il venu nous conduire à la repentance et à la rémission du péché? Si connaître la vérité doit vous rendre libre, de quoi sommes-nous censés être libérés, de la culpabilité ou du péché? Le fait d'enlever la culpabilité ne rend-il pas le péché plus facile pour nous tous, nous permettant de pécher davantage sans crainte? Donc Jésus serait venu pour que nous péchions davantage, Jésus serait venu pour promouvoir le péché, cela ne rend-il pas Jésus mauvais? Le diable pourrait-il rendre le péché plus facile que l'aisance sans culpabilité du péché que cette fausse doctrine attribue à Jésus? C'est une tromperie majeure. Jésus a dit, « en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. » Jean 8, 34. Si nous sommes esclaves du péché, il ne peut pas être notre Seigneur. Vous êtes les esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui mène à la mort, soit de l'obéissance qui mène à la justice. Rome 6, 16, 19. Et la repentance, son message était, « si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous. » Luc 13, 3. Certes, nos péchés nous sont pardonnés pendant que nous cherchons à devenir libres du péché, mais nous ferions bien de nous assurer que nous nous repentons afin de mener à bien notre salut qui conduit à la purification et au repos, sinon nous manquerons la cible. Efforçons-nous donc avec diligence de tout notre zèle d'entrer dans ce repos, de peur que quelqu'un ne tombe dans le même genre d'incrédulité aboutissant à la désobéissance. Hébreux 4, 11. C'est un avertissement sérieux à tous ceux qui se disent chrétiens. Pour éviter de perdre votre âme et d'être bannis du ciel, comme les Juifs furent tués dans le désert et empêchés d'entrer dans la terre promise à cause de leur incrédulité aux promesses de Dieu, vous devez travailler avec zèle dans la foi pour atteindre le repos promis du sabbat spirituel, qui est l'union avec Dieu et l'entrée dans le royaume des cieux, en vous et autour de vous. Nous nous asseyons en Christ pour entrer dans le repos, pour entrer dans le repos de la lutte contre nos ennemis, comme Israël entra dans le repos de la guerre et de l'épuration de son pays des peuples païens environnants. Seulement nos ennemis sont spirituels. La luxure, la rage, l'orgueil, l'égoïsme, l'envie, la cupidité, la convoitise, la jalousie, le mensonge, la tromperie, le vol, l'immoralité sexuelle, le langage profane et les pensées mauvaises, etc. Le salut consiste à être délivré et libéré du péché et protégé du mal, sanctifié de nos ennemis du péché. Qu'il ne soit pas dit de vous, voici le repos par lequel vous pouvez donner du repos aux fatigués, et voici le rafraîchissement, pourtant ils n'ont pas voulu écouter. Hébreux 28, 12. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sainteté. 1 4 7 Paul nous avertit, « Car sachez-le bien, aucun homme impudique ou impur ou cupide qui est un idolâtre n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu, que personne ne vous séduise par de vaines paroles, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur ceux qui sont désobéissants. » Éphésiens 5 5 6 Les personnes immorales, impures ou avides sont bannies du ciel. Et Jean nous avertit, « Petits enfants, que personne ne vous séduise, celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. » 1 Jean 3, 7, 8. Ceux qui continuent à pécher encourent la colère de Dieu, y compris ceux qui pensent être chrétiens. Concernant le jour du jugement, où chaque homme sera jugé sur ses œuvres et ses paroles, Christ a dit qu'il rejetterait beaucoup de ceux qui pensaient être chrétiens, même ceux qui avaient accompli des miracles en son nom. Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, et en ton nom chassé les démons ? Et en ton nom fait beaucoup d'œuvres merveilleuses, et alors je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité, péché, illégalité ou méchanceté. » Matthieu 7, 22, 23 « Quiconque commet le péché pratique l'illégalité, car le péché est l'illégalité. » 1 Jean 3, 4 « Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils retireront de son royaume tout ce qui cause le péché, ainsi que ceux qui pratiquent l'illégalité le péché, et les jetteront dans une fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Matthieu 13, 37, 43 « Mais pour ceux qui, par ambition égoïste, n'obéissent pas à la vérité, mais obéissent à l'injustice, ceux-là reçoivent indignation et colère, tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal pêche. » Rome 2, 8, 9 « Sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. » Hébreux 12, 14 « Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. » Matthieu 5, 8 « Sans un cœur pur, vous ne verrez pas Dieu. » Donc, si nous mourons en péchant encore, nous sommes bannis du ciel. Nous n'avons pas reçu assez de grâce de Dieu pour nous libérer de l'esclavage du péché. C'est là la tâche, bien que nous ne la méritions pas, recevoir davantage de grâce suffisamment pour être libérés du péché. Pour recevoir davantage de grâce, nous devons nous efforcer d'entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne le pourront pas. Luc 13, 24. La grâce n'est pas reçue instantanément et n'est pas le salut, comme on le croit largement. Croire que vous êtes sauvé tout en étant encore plongé dans le péché, c'est ignorer, mépriser et traiter avec indifférence les nombreuses exclusions, exigences et conditions qualificatives du salut clairement énoncées dans la Bible, ainsi que les commandements de Jésus, tout en s'appuyant sur quatre versets choisis parmi des milliers pour soutenir un salut imaginaire, sans jamais se donner la peine de se demander comment ces quatre versets doivent être interprétés conjointement avec les merveilleux commandements de Jésus et le reste de la Bible. Ainsi les gens attendent de Jésus qu'il soit leur excuse pour ne pas obéir au commandement qu'il a quitté sa gloire au ciel pour venir enseigner sur la terre, puis il est mort d'une mort horrible, pour montrer jusqu'où doit aller l'obéissance requise que nous devons tous avoir pour jamais plaire à Dieu. Il ne sera pas leur excuse, il reniera tous ceux qui continuent à pécher. Seuls ceux qui font la volonté du Père entrent dans le royaume des cieux. Matthieu 7:21. Jésus a dit qu'il ne faisait que ce qui lui était commandé, non sa propre volonté, Jésus ne faisait que la volonté du Père. La volonté du Père est l'obéissance à ses commandements. Vous devez attendre, veiller, écouter, entendre, obéir. Attendre, veiller, écouter, entendre, obéir. Chercher, écouter, obéir pour être un jour capable de faire la volonté du Père plutôt que votre propre volonté. Bible en ligne avec commentaires pour montrer la vraie espérance, la vraie foi et le vrai salut. Commencez par Jean 14 et Jean 17. Examinez les Écritures montrant les conséquences de ne pas obéir à la voix du Seigneur. Lire les significations cachées de Le Notre Père, le Sermon sur la montagne, le Psaume 23, ce que Jésus a rendu possible, c'est ceci. Aussi profondément que vous ayez été immergé dans le péché, vous avez accès à la puissance transformatrice de Dieu pour devenir pur, pourvu que vous soyez motivé à rechercher son enseignement et sa grâce qui transforme. Ainsi chacun, par une obéissance patiente et persévérante à ses enseignements et commandements qu'il vous adresse, repentance, peut être changé par la grâce jusqu'à être finalement purifié et devenir juste. De même qu'Abraham devait être circoncis physiquement, nous devons avoir le cœur circoncis pour plaire à Dieu. Comme Abraham exerça sa foi en quittant sa maison pour une nouvelle terre, de même nous devons perdre notre vie charnelle et renoncer au monde pour entrer dans le royaume de Dieu. Comme Abraham exerça sa foi en obéissant à la voix de Dieu, prêt à sacrifier Isaac, de même nous devons être obéissants à la voix du Seigneur au-dedans. Ce site web montre comment Anania et sa femme Saphira étaient membres de l'Église à Jérusalem. Une grande grâce reposait sur eux tous, il n'y avait parmi eux aucun nécessiteux, car tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et apportaient le produit des ventes pour le déposer aux pieds des apôtres, puis on faisait la distribution à chacun selon ses besoins. Anania, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, faisant semblant de donner la totalité. Ananias et Saphira furent tous deux immédiatement frappés de mort par le Saint-Esprit. En fait, ils mentaient à Dieu. Leur mort fut un exemple qui inspira une grande crainte à toute l'Église. Acte 4, 33, 35, 5, 1, 11. Or, peu contesterait que ces croyants, sur qui reposait une grande grâce, aient été sauvés par la grâce s'ils furent frappés de mort par le Saint-Esprit pour avoir menti. La grâce ne nous rend pas instantanément justes, car nous, par l'Esprit, par la foi, nous attendons patiemment l'espérance de la justice. Galates 5, 5. Ne savez-vous pas que celui à qui vous vous livrez comme esclave pour lui obéir, vous en êtes les esclaves, soit du péché qui mène à la mort, soit de l'obéissance qui mène à la justice. Romains 6, 16. L'obéissance mène à la justice. Sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 14. Jésus a dit, « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez en aucun cas dans le royaume des cieux. » Matthieu 5, 20. Jésus nous a dit comment notre justice doit dépasser celle des pharisiens. Éviter l'adultère ne suffit pas, nous ne devons même pas regarder une femme avec convoitise. Éviter le meurtre ne suffit pas, nous ne devons pas entretenir la colère dans nos cœurs. Il ne suffit pas d'aimer notre frère, nous devons aimer même nos ennemis, nous devons bénir ceux qui nous maudissent. Ces exigences de justice dépassent la simple retenue du comportement. Elles requièrent un cœur changé, un cœur purifié. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, vous qui avez l'âme partagée. Jacques 4, 8. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. 1 Jean 3, 2, 3. Dans l'erreur, les ministres d'aujourd'hui disent, « Parce que tu as la foi en Christ, même si tu continues à pécher, tu es juste et sauvé. Cependant, celui qui dit aux méchants ceux qui continuent à pécher, tu es juste, les peuples maudiront, les nations l'auront en abomination. » Pro 24, 24. Vous finirez par maudire tous les ministres qui ont promu ce mensonge pernicieux. En pratique, ils vous disent « Ne cherche pas, n'obéis pas, ne crains pas, ne lutte pas. Il existe une justice imputée qui vient après que nous avons crucifié notre nature pécheresse par l'obéissance sur la croix. » Voir la note 2 dans Romains 3 pour la bonne compréhension de la justice imputée. Jésus a dit à 5 des 7 églises de croyants dans l'Apocalypse qu'elles étaient perdues, en route vers la destruction. Les croyants de Smyrne allaient entrer dans la tribulation, et il les a encouragés. Remarquez encore. Jésus a dit que 5 des 7 églises chrétiennes de croyants étaient en route vers l'enfer. Seule l'église de Philadelphie allait bien parce qu'ils avaient gardé obéi sa parole avec une patience persévérante. Une erreur massive s'était déjà emparée des esprits il y a 2000 ans, jusqu'à ce qu'aujourd'hui la fausse église soit omniprésente, la grâce étant supposément une licence pour continuer à pécher. Le Seigneur m'a dit, « Là où il y a obéissance, il y a justice, sans elle, vous avez la Seconde Guerre mondiale. » Même Adolf Hitler disait que Jésus était son Seigneur et Sauveur. Un pécheur sauvé par grâce? Non, 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 le péché doit disparaître, petits enfants, que personne ne vous séduise, celui qui pratique la justice est juste comme lui est juste, 1 Jean 3, 7. Jésus ne parlait, ne jugeait et n'agissait que selon ce que Dieu lui inspirait et lui ordonnait. Pour pratiquer la justice, nous aussi devons pouvoir ne dire que ce que nous l'entendons nous ordonner de dire et ne faire que ce que Dieu nous ordonne de faire. Cette capacité ne vient qu'après que nous avons crucifié notre esprit égoïste, le péché ayant été détruit par l'esprit en portant la croix intérieure du renoncement à soi, alors nous marchons de la même manière qu'il a marché et dans le monde comme il y était avec perfection, pureté et sainteté. Jésus a dit, « En vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. » Jean 8, 34. Si vous péchez encore, vous êtes esclave du péché, et Jésus ne peut pas être votre Seigneur. Jésus a dit lui-même, « Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. » Luc 16, 13. Selon Paul, réveillez-vous pour la justice et ne péchez pas, car certains n'ont pas la connaissance de Dieu. Je dis cela à votre honte. 1 Cor 15, 34. Paul s'adresse aux membres de l'église de Corinthe, des gens qui se disaient chrétiens, ils croyaient en Jésus. Et la grâce ne nous rend pas instantanément justifiés, car nous cherchons à être justifiés en Christ. Galates 2, 17. Concernant le salut instantané par la grâce, d'après la parole du Seigneur au-dedans, c'est tordu, des mensonges pernicieux, un défaut fatal qui détourne le juste. La grâce ne sauve personne instantanément. Le véritable fonctionnement de la grâce est un processus d'enseignement par l'esprit. Se repentir des convoitises, être purifié du péché, vivre pieusement dans la pureté, ce qui conduit à voir Jésus apporter votre salut à la fin du processus de repentance et d'enseignement. Et dessous se trouve la définition de la grâce par Paul, tirée de Tite 2, 11-14. Car la grâce de Dieu, source de salut, est apparue à tous les hommes, nous enseignant à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre avec sobriété, justice et piété dans le présent siècle, tandis que nous recevons l'accomplissement bienheureux de notre espérance, la manifestation glorieuse du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, acte sans loi, péché. Tite 2, 11-14. Les faux apôtres de la chrétienté ont commencé à enseigner le mensonge d'une grâce instantanée, excusant par la grâce tous les péchés passés, présents et futurs, il y a 2000 ans, et les oreilles qui démangent du monde ont adopté le mensonge avec des monceaux de docteurs et de prédicateurs, exactement comme Paul l'avait prédit. Par la grâce, par la foi en ce que nous entendons au-dedans de notre cœur, nous sommes délivrés de tout péché, ce qui est le salut, mais seulement après avoir écouté et obéi au Seigneur au fil du temps. Il n'y a pas de réception unique, instantanée, du salut par la grâce. Nous devons croître dans la grâce et l'espérance jusqu'à voir la fin de la grâce, Jésus apportant notre salut. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 2 Pie 3, 18. Soyez donc fermes d'esprit, soyez sobres, et espérez jusqu'au bout la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de votre vision de Jésus-Christ. 1 Pierre 1, 13. La grâce nous enseigne ce qu'il faut renier. La grâce, Jésus, nous conduit à la repentance. Par notre obéissance à sa conduite et à ses commandements, la grâce enlève ensuite le péché, même le désir de péché de nos cœurs, nous rachetant ainsi de tout péché et nous purifiant. La délivrance de tout péché est la véritable définition du salut. L'évangile de Jésus promet la libération de l'esclavage du péché, le royaume de Dieu dès ici-bas, et l'union avec Dieu. Pour réaliser les promesses de la grâce de Dieu, vous devez le chercher, ce que Jésus nous a dit de faire notre priorité première dans la vie. Matt 6, 33. Pour le chercher, il a dit que nous devions venir à lui. Il a dit que s'asseoir à ses pieds et l'écouter était la bonne part, l'unique chose nécessaire, et celle qui ne sera pas ôtée. Ainsi, nous nous asseyons dans une humble silence en écoutant sa voix et ses paroles, et en veillant à ses révélations. Quand nous entendons ses commandements, nous lui obéissons. La Bible appelle cela attendre Dieu. Attendre Dieu, c'est persister à s'asseoir dans une humble silence, écouter sa voix et ses paroles, guetter ses révélations, entendre ses commandements, puis lui obéir. C'est ainsi que nous recevons les promesses de l'Évangile, y compris le salut du péché par la grâce, au moyen de la foi. À ceux qui l'attendent avec persévérance et patience, il apparaîtra une seconde fois, non pour porter le péché, mais pour apporter le salut. Hèbres 9, 28 « Et ayant été rendu parfait, il Jésus est devenu l'auteur et la source du salut éternel pour tous ceux qui l'écoutent et lui obéissent. » Hèbres 5, 9 « En attendant Dieu, nous recevons les enseignements de la grâce, les convictions de la grâce et l'enlèvement du péché par la grâce, aboutissant à notre salut par la grâce. » Ci-dessous, un examen attentif de la définition scripturaire de la grâce ci-dessus, « Car la grâce de Dieu, source de salut, est apparue à tous les hommes. » Tite 2:11 « La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ » Jean 1:17 « Car Jésus est la vérité, et Jésus est la grâce de Dieu. L'Esprit est donné à tout homme, mais la manifestation de l'Esprit est donnée à chacun pour l'utilité commune. » 1 Cor 12:7 « Dieu donne à tout homme venant au monde la vraie lumière, qui est Jésus-Christ, afin que tous puissent croire. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisie, afin que tous les hommes puissent croire en elle la lumière, Christ. » C'est la vraie lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Jean 1, 4, 5, 7, 9 « À tout homme sont donnés l'Esprit, la lumière et la grâce, tous sont l'Esprit de Dieu. La grâce est l'enseignant, mais elle doit être entendue et obéie. D'après la parole du Seigneur au-dedans, dans chaque cœur se trouve une grâce qui purifie le cœur et l'âme. La grâce est apparue à tous les hommes, mais la grâce doit être reçue et obéie pour que le salut devienne réalité. Le salut n'est apporté qu'à ceux qui l'écoutent et lui obéissent, tandis qu'ils l'attendent avec persévérance et patience. Et, ayant été rendu parfait, il Jésus est devenu l'auteur et la source du salut éternel pour tous ceux qui l'écoutent et lui obéissent. Hèbres 5, 9 « À ceux qui l'attendent avec persévérance et patience, il apparaîtra une seconde fois, non pour porter le péché, mais pour apporter le salut complet. » Hèbres 9, 28 « La grâce n'est pas non plus reçue instantanément par croire en Jésus et ou le baptême d'eau, et la grâce n'est pas le salut, comme le croit largement la chrétienté. » Concernant le salut instantané par la grâce, la parole du Seigneur au-dedans a dit « Es-tu d'accord avec ceux qui, dans leur arrogance, ont déclaré que Dieu excuse le mal chez les croyants? Ce n'est pas juste, mais cela leur est égal. C'est tordu des mensonges pernicieux, un défaut fatal qui détourne le juste. » La définition « mensongère de la grâce » selon la chrétienté est censée excuser le péché chez les croyants. Ce mensonge est apparu pour la première fois il y a 2000 ans, lorsque ceux qui manquaient de patience ont quitté la vraie Église et se sont mis à prêcher, comme Jude le décrit. « Car certains hommes se sont glissés parmi vous à votre insu, depuis longtemps désignés pour ce jugement, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en libertinage et en débauche, une licence pour l'immoralité, et qui renient et désavouent notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. » Jude 1, 4. Ces hommes ont transféré le sens de la grâce, en le détournant de la vérité, à savoir que par la repentance, l'Esprit de Dieu nous commande de renoncer aux convoitises et à l'impiété, tandis qu'il nous purifie afin que nous puissions vivre, dans ce monde présent, une vie sobre et pieuse, pour le transférer à la contre-vérité tordue selon laquelle la grâce excuse tous les péchés passés, présents et futurs des croyants, excusant ainsi les croyants pour vivre à leur guise dans leur convoitise et leur orgueil, sans loi. En prétendant que la grâce excuse tout péché, ces hommes ont renié et désavoué Jésus comme leur Seigneur et Maître, lui qui a dit « Repentez-vous ou périssez, et ne péchez plus ». Ce n'est pas ce que l'on dit qui fait de Jésus leur Seigneur ou Maître, mais leurs actes, le mépris et la désobéissance à ses enseignements et à ses commandements le nient comme Seigneur et Maître. Celui qui pêche encore pourrait, par erreur, prétendre qu'il est racheté de toute iniquité, mais non que la grâce l'a purifié. Et quand la vraie grâce vous a purifié de toute iniquité, vous voyez Dieu, car les cœurs purs voient Dieu. Matthieu 5, 8 Jésus a rendu possible que la grâce soit disponible pour tous les hommes par la foi intérieure. D'après la parole du Seigneur au-dedans, les gens n'ont pas entendu parler de la grâce de Dieu qui sépare du péché. Ainsi tous ceux qui cherchent leur espérance par l'Évangile, la puissance de Dieu s'empare d'un homme et le rend saint. L'Esprit enseigne par la grâce détruit le péché, l'Esprit de grâce accuse et enlève à la fois, tout comme Jésus a dit « Repentez-vous », et il a aussi guéri, sauvé par grâce, mais qu'en est-il du reste de ce chapitre? Vous n'avez pas fait l'expérience de la grâce tant que vous n'avez pas été ressuscité avec lui. La grâce qui transforme est vivante en ceux qui ont confiance. La grâce apporte le salut à ceux qui l'attendaient et qui se conduisaient correctement. Stephen Crisp, Quaker des débuts, demeurant dans le royaume, a écrit une lettre à tous les peuples au sujet du chemin simple, dont un extrait pertinent est reproduit ci-dessous. Car bien qu'il soit vrai que nul ne peut obéir au Seigneur sinon par sa grâce et sa puissance donnée, Pourtant il a fait paraître sa grâce, celle même qui apporte le salut, à tous les hommes, comme en Tite 2, 11 « Et elle est apparue en vous, à qui j'écris, et elle est en vous un reprocheur. » Vous devez vous tourner vers ce qui vous frappe, alors vous vous tournez vers la grâce de Dieu, car c'est sa grâce qui lutte avec vous, pour vous conduire hors du mal qu'elle réprouve en vous, et ainsi hors du monde qui gît dans le mal, vers Dieu d'où vient la grâce. Car quiconque se livre aux attirances du bon esprit de Dieu, qui agit en eux, et dans l'obéissance à cela, se renie quant à ses propres volontés, ses mauvais désirs et ses plaisirs. Cela ne manque pas de puissance mais le sent proche d'eux, lui qui produit d'abord la volonté de se repentir, puis l'acte la repentance effective selon son bon plaisir. Ainsi la gloire lui revient à lui seul. À présent vous connaissez le mystère de la croix, et comment elle est la puissance de Dieu, faute de quoi tous ceux qui rejettent la croix se plaignent. Tant donc que vous vivez dans la croix, vous vivez dans la puissance, votre obéissance est facile, et tout vous est possible par elle, et tant que vous mourrez chaque jour à ce qui est corruptible, vous ressentez davantage de vie, de joie et de délices dans ce qui est éternel. Vos désirs deviennent de plus en plus ardents après une jouissance pleine et parfaite de cela, dans la pure unité de l'esprit. À mesure que ces bons désirs se fortifient en vous, il devient pour vous plus facile de vous séparer de ce qui fait obstacle, même si ce sont les péchés de votre cœur, vos Dalilas et vos chéris. Tout doit disparaître à cause de l'amour que vous avez pour la vérité. Seuls ceux qui ont cet amour et qui y demeurent sont comptés dignes d'être héritiers du royaume de Dieu. Le désir de mon âme est que vos liens puissent être brisés et que vos âmes puissent s'échapper. Mais je vous dis ceci à tous au nom du Seigneur. Il n'y a pas de voie de délivrance pour vous, si ce n'est de vous abandonner dans une obéissance simple à ce témoin fidèle et véritable de Dieu, qui s'agite et se meut en vous contre vos péchés. Et donc, attendez de sentir votre pensée et votre volonté s'y soumettre, afin que vous vous sentiez être l'un de ces gens de bonne volonté au jour de la puissance de Dieu. Cessez de raisonner contre l'obéissance à la vérité astérisque et de dire que vous ne pouvez pas parce que vous manquez de puissance, et que lorsque Dieu vous donnera sa grâce, alors vous obéirez, car ses paroles sont vaines. Astérisque quand le Seigneur vous a dit de vous repentir, vous le pouvez parce qu'il vous donne la puissance d'obéir. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'ont de force, mais la foi opérant par l'amour agit avec puissance. Galates 5:6 Haïssez vos mauvaises pensées, vos paroles profanes et votre esclavage à vos plaisirs, ce sont vos ennemis. Au début, vous ne pouvez pas arrêter totalement votre esprit de péché, car votre esprit est charnel, et l'esprit charnel est inimitié contre Dieu, cet esprit est détruit sur la croix et remplacé par la pensée de Christ. Au début, vous ne pouvez pas contrôler totalement votre langue pour ne pas pécher, ce contrôle total vient avec la perfection. Toutefois, vous pouvez contrôler vos pieds et vos mains, et vous pouvez apprendre à contrôler vos yeux, en vous exerçant à détourner le regard de ce qui vous tente. La crainte de Dieu consiste à se détourner du mal. Si vous ne cessez pas de pécher en tendant les mains pour commettre le mal, et en courant au mal avec vos pieds, vous ne cherchez pas Dieu sincèrement, vous avez manqué de vous repentir des bases qui sont sous votre contrôle. Se détourner du mal autant que nous le pouvons est une condition préalable pour chercher Dieu et son salut avec sincérité. L'obéissance à ce que vous comprenez et à ce dont vous êtes capable conduit à la justice. Si vous péchez délibérément alors que vous auriez pu choisir de ne pas le faire, vous trahissez votre sincérité à chercher Dieu et vous pouvez vous attendre à recevoir peu ou pas d'aide jusqu'à ce que vous manifestiez un véritable renoncement au mal dont vous êtes capable par la grâce de Dieu qui soutient votre résolution. Par votre obéissance continue à ce que vous savez et pouvez faire, tout désir de péché finira par être retiré de votre cœur par la grâce supplémentaire du Seigneur. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 2 Pie 3, 18 Soyez donc fermes d'esprit, soyez sobres, et espérez jusqu'au bout la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de votre vision de Jésus-Christ. 1 Pierre 1, 1-3 Nous enseignant à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre avec sobriété, justice et piété dans le présent siècle. Tite 2, 12 Bon et droit est le Seigneur, c'est pourquoi il enseignera aux pécheurs le chemin. Il conduira les humbles dans ce qui est juste et il enseignera sa voie aux doux. Psaume 25, 8-9 Mais lorsque l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira seulement ce qu'il entendra, et il vous annoncera les choses à venir. Jean 16, 13 Voici ce que dit le Seigneur, ton protecteur, le Saint d'Israël. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'enseigne à réussir, qui te conduit par le chemin où tu dois marcher. Hébreux 48:17 Mais l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous enseigne. Mais comme la même onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est vérité et n'est pas mensonge, et comme elle vous a enseigné, demeurez en lui. 1 Jean 2:27 Je t'instruirai et je t'enseignerai la voie où tu dois marcher, je te guiderai de mon œil. Psaume 32, 8. Cessez de vous confier en l'homme dont le souffle est dans ses narines, car quelle valeur a-t-il? Mais tournez vos regards vers moi, et soyez sauvés, vous tous, extrémités de la terre, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Ézéchiel 2, 22, 45, 22. Il est écrit dans les prophètes, et ils seront tous enseignés de Dieu. Tout homme donc qui a entendu et appris du Père vient à moi. Jean 6, 45. Vous ne devez pas marcher comme les autres païens, dans la vanité de leurs pensées, ayant l'intelligence obscurcie, étant étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment les remords de conscience, ils se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toute impureté. Mais vous n'avez pas appris Christ de cette manière, à supposer que vous l'ayez réellement entendu et que vous ayez été enseigné par lui, comme la vérité est en Jésus. Éphésiens 4, 17, 21. Mais le Consolateur, qui est le Saint-Esprit et que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Jean 14, 26. Tandis que nous recevons l'accomplissement bienheureux de notre espérance, la manifestation glorieuse du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, Tite 2, on a typiquement traduit cela par « attendant la bienheureuse espérance au lieu de recevant ». Pourtant le texte grec pour ce verset indique clairement le mot grec « proskomnoao » qui se traduit par « recevant ». Pour se former aux doctrines de Babylone, recevoir Jésus dépassait leur expérience, ils ont donc dû traduire cela par « attendant ou guettant le retour physique, unique, du Christ devant le monde entier ». Pourtant, comme les Écritures suivantes l'appuient, ceux qui attendent leur Dieu et obéissent à ses commandements le voient. Même David voyait sa face régulièrement, sinon continuellement. Quelle espérance recevons-nous? D'abord, nous recevons les enseignements d'amour, les compréhensions, les convictions, les encouragements et les commandements de la grâce de Dieu. À chaque révélation, notre foi augmente et notre espérance augmente, nous motivant à passer encore plus de temps à attendre les commandements et les enseignements de Dieu. À mesure que nous suivons les commandements de Jésus que nous entendons, peu à peu, nous faisons l'expérience de la libération progressive et miraculeuse des péchés, ce qui valide nos efforts et nous motive à persévérer jusqu'à la fin, ce que Jean explique en montrant comment notre purification aboutit à recevoir notre espérance ultime. Bien-aimés, maintenant nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera révélé, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Et tout homme qui a cette espérance en lui se purifie, comme lui Jésus est pur. 1 Jean 3, 2, 3. Le visage de Jésus apparaît dans votre cœur, car Dieu, qui a dit que la lumière resplendisse du sein des ténèbres, a resplendi dans nos cœurs, pour faire briller la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu sur le visage de Jésus-Christ. 2 Cor 4, 6. Et nous tous, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. 2 Cor 3, 18. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5, 8. Bien-aimés, maintenant nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera révélé, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Et tout homme qui a cette espérance en lui se purifie, comme lui Jésus est pur. 1 Jean 3, 2, 3. Et voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque voit et croit en dépende, se confie en et obéit à lui à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6, 40. Et ayant été rendu parfait, il Jésus est devenu l'auteur et la source du salut éternel pour tous ceux qui l'écoutent et lui obéissent. Hébreux 5, 9. C'est la seconde apparition, la révélation, l'apocalypse de Christ, dans les cœurs des croyants individuels, chez ceux qui ont préparé le chemin dans leur cœur pour que le Seigneur entre, soit révélé et règne comme Seigneur. Lui qui était caché au-dedans est révélé. Comme Paul l'a dit, il a plu au Père de révéler son Fils en moi afin que je le prêche. L'étoile du matin se lève dans vos cœurs. 2 Pie 1, 19. Moi, Jésus, je suis la racine et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. App 22, 16. Celui qui vaincra, je lui donnerai l'étoile du matin. App 2, 26, 28. Comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident, ainsi sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24, 27. Jésus est ressuscité en nous pour être notre vrai Seigneur. 2 Cor 4, 14. Col 2, 12, 3, 1, F 2, 6. Les nombreuses réceptions de la grâce prennent fin lorsque vous voyez Jésus apporter votre salut et la vie éternelle. Soyez donc fermes d'esprit, soyez sobres, et espérez jusqu'au bout la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. 1 Pie 1, 13. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Jude 1, 21. Il n'apparaît qu'à ceux qui, ayant obéi à ses commandements dans l'amour du Seigneur, deviennent purs. Jésus l'explique clairement ci-dessous dans Jean. Celui qui a mes commandements et qui leur obéit, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et je me montrerai à lui. Alors Judas, non l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, comment se fait-il que tu doives te montrer à nous et non au monde ?» Jésus répondit et lui dit, « Si quelqu'un m'aime, il obéira à mes paroles prononcées, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, astérisque, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas n'obéit pas à mes paroles prononcées, et les paroles prononcées que vous entendez ne sont pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Jean 14, 21-24 astérisque. Ce verset dans Jean confirme ce que dit Tite 2, 13. Tandis que nous recevons l'accomplissement bienheureux de notre espérance, la manifestation glorieuse du grand Dieu le Père et de notre Sauveur Jésus-Christ, tous deviennent et font leur demeure dans votre cœur. Le Nouveau Testament est rempli de références à la seconde apparition de Jésus comme étant alors, et non des milliers d'années plus tard. Dans Matthieu, Marc et Luc, Jésus est rapporté disant que certains de ceux qui se tenaient alors auprès de lui, il y a 2000 ans, verraient sa venue glorieuse dans les nuées avec le royaume avant de mourir. De plus, Paul, la prédication de Jésus dans l'Apocalypse, Pierre, Jacques et Jean, tous disaient « Bientôt le temps est proche, encore un peu de temps, il se tient à la porte ». La chrétienté ignore avec désinvolture cette béante incongruité entre ce que la Bible déclare clairement et ce qu'on leur enseigne par leurs guides aveugles. Ce serait une cruelle supercherie d'attendre qu'il apparaisse si les 100 dernières générations de croyants n'avaient en réalité aucun espoir de le voir un jour. Il y a une page web entière sur ce site consacrée à cette seconde apparition. La seconde apparition de Jésus est au-dedans, dans les cœurs des croyants purifiés. Qui s'est donné lui-même pour nous, Tite 2, 14. Mais nous voyons Jésus, qui a été fait pour un peu de temps inférieur aux anges, couronné de gloire et d'honneur à cause de la souffrance de la mort, afin que, par la grâce de Dieu, il goûte la mort pour tout homme. Heb 2, 9. Lui qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, afin que cela soit attesté en son temps. 1 Tim 2, 6. Il est le sacrifice expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. 1 John 2, de la grâce et la vérité sont venus par Jésus-Christ, John 1, 17. Afin qu'il nous rachète de toute iniquité, acte sans loi, péché, Tite 2, 14. Ayant donc été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Rome 6, 18. Mais maintenant, ayant été affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit récompense la sainteté, et pour fin la vie éternelle. Rome 6, 22. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché, car sa semence demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. 1 John 3, 9. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche pas, mais Dieu protège celui qui l'a engendré, et le malin ne le touche pas. 1 John 5, 18. Et qu'il se purifie un peuple, Tite 2, 14. Et il n'a fait aucune différence entre nous et eux, purifiant leur cœur par la foi. Acte 15, 9. Moi Jésus, je t'envoie pour ouvrir leurs yeux, et les faire passer des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu, afin qu'ils reçoivent le pardon des péchés, la délivrance de l'esclavage du péché, et un héritage parmi ceux qui sont purifiés par la foi en moi. Acte 26, 17, 18. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, vous qui avez l'âme partagée. James 4, 8. Purifiez vos âmes par l'obéissance à la vérité par l'esprit, pour un amour sincère des frères. Veillez à vous aimer ardemment les uns les autres d'un cœur pur. 1 Pé 1, 22. Et tout homme qui a cette espérance en lui se purifie, comme lui Jésus est pur. 1 John 3, 3. Beaucoup seront purifiés, blanchis et éprouvés, mais les méchants agiront, méchamment pécheront. Et aucun des méchants, ceux qui pêchent encore, ne comprendra, mais les sages comprendront. Dan 12, 10. Invoquez le Seigneur d'un cœur pur. 2 Tim 2, 22. Le même esprit de grâce qui montre à un homme ses péchés, enlève ensuite ses péchés de son cœur. Rome 8, 13. Col 2, 11, 1 John 1, 7, 3, 8, Isa 43, 25, 2, 36, un peuple qui lui appartiennent en propre, Tite 2, 14, ceux qui appartiennent à Christ Jésus ont crucifié la chair, la nature pécheresse avec ses passions et ses désirs, convoitises et affections, Galles 5, 24, quiconque garde ses paroles prononcées obéit aux commandements du Seigneur qui lui sont adressés, véritablement l'amour de Dieu est parfait en lui, par là nous savons que nous sommes en lui. 1 John 2, 5, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est rendu parfait en nous. 1 John 4, 12. J'habiterai en eux, et je marcherai en eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. 2 Cor 6, 16. Lève 26, 12. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. John 10, 27. Afin que leur cœur soit consolé, étant unis ensemble dans l'amour, et parviennent à toutes les richesses d'une pleine intelligence, à la connaissance du mystère de Dieu, qui est Christ. Col 2, 2. Car de même que le corps est un et a plusieurs membres, et que tous les membres de ce seul corps, bien que nombreux, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il aussi de Christ. 1 Cor 12, 12. Moi Christ en eux son peuple, et toi le Père en moi, afin qu'il soit rendu parfait dans l'unité. John 17, 23. Zélé pour les bonnes œuvres. Tite 2, 14. Dieu fait de nous un instrument approprié pour que sa main nous dirige dans des œuvres d'amour, afin de montrer au monde l'amour de Dieu, d'ébranler les nations, et de présenter la parole de vie et de foi. Les œuvres de Dieu sont accomplies par son peuple avec une grande joie, parce qu'ils savent que toutes leurs paroles et leurs actions sont parfaites et vertueuses, ce qui plaît à Dieu et fait progresser la création. Ainsi, ils pratiquent la vraie justice. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ Jésus pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous y marchions en les accomplissant. F2 dit que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, le grand berger des brebis, par le sang de l'Alliance éternelle, vous rende parfait en toute bonne œuvre pour faire sa volonté, opérant en vous ce qui est agréable à ses yeux, par Jésus-Christ, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Hébreux 13, 20-21 Afin que vous marchiez d'une manière digne du Seigneur, lui plaisante à tous égards, portant du fruit en toute bonne œuvre. Colin dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et glorifie votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, 16 Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées comme ayant été produites, formées et rendues possibles par Dieu. John 3, 21 Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir agir et l'action, comme il est commandé, selon son bon plaisir. Philippiens 2, 13 C'est pourquoi, si un homme se purifie de ces choses, iniquité, absence de loi, péché, il sera un vase d'honneur sanctifié et utile au Maître, préparé pour toute bonne œuvre. 2 Tim 2, 21 C'est par la grâce de Dieu que nous recevons de l'aide pour être purifiés par la repentance, ce qui, avec le temps, peut conduire à la justice et au salut. Nous nous approchons de Dieu par la foi en Christ, ce qui nous donne accès à sa grâce pour nous débarrasser de nos ténèbres et parvenir à un état sans péché. La vraie grâce nous enseigne ce qu'il faut renier, ce dont il faut se repentir et comment vivre, et par la vraie grâce Jésus nous purifie de nos convoitises et de nos affections pour les plaisirs du monde. Et nous cherchons cette aide auprès de Dieu en nous attendant à la recevoir, non sur la base de quoi que ce soit que nous ayons fait pour la mériter, mais seulement par notre foi au nom de Jésus-Christ. Nous ne savons même pas de quoi nous repentir, jusqu'à ce que la grâce nous le montre et nous l'enseigne. La repentance est une expérience humiliante, certainement pas une expérience dont on pourrait tirer un mérite pour soi. C'est comme avoir une maladie qui exige qu'un médecin fasse une opération. Si nous subissons l'opération, nous ne pouvons en tirer aucune fierté. Le médecin a fait le travail. Il en est ainsi avec Dieu, sauf que le médecin fait payer, et Dieu ne fait pas payer, c'est donné gratuitement par la grâce, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par la foi, et cela ne vient pas de vous-même. C'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. F2, 8-9 Sommes-nous fiers d'aller humblement à Dieu comme pécheurs et de demander son aide? Bien sûr que non, demander de l'aide est l'opposé de l'orgueil. Ainsi, il n'y a aucune vantardise dans la repentance au travers des enseignements et des transformations de la grâce. Il n'y a aucune vantardise à se voir montrer notre état déplorable de péché, tout en s'efforçant d'avoir une conduite différente avec l'aide de Dieu. La grâce nous humiliera jusqu'au néant. Non, les vantardises les plus bruyantes dans la chrétienté viennent des pécheurs sauvés, qui se vantent que le faux évangile de la grâce leur donne la faveur de Dieu, une place spéciale au ciel et une licence de péché. Ce sont des hypocrites, une pierre d'achoppement, et ils dispersent les vraies brebis loin de Christ. Un hypocrite parle de religion tout en marchant dans le péché. Jésus s'est adressé aux hypocrites, « Vous êtes ceux qui vous déclarez justes devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. » Luc 16, 15 « Ce peuple s'approche de moi de sa bouche et m'honore de ses lèvres, mais son cœur est loin de moi. » Matthieu 15, 8 Vos cœurs doivent être purifiés, réellement purifiés jusqu'à la pureté. Le faux évangile de la grâce enseigne encore, à tort, que puisque la grâce est gratuite, si nous faisons quoi que ce soit, même la repentance ou prendre notre croix, nous avons perdu notre salut par la foi et la grâce, parce que nous abandonnons notre foi et cherchons à être justifiés par les œuvres, échouant ainsi à être soumis à la loi. C'est une rationalisation ridicule, inventée par des guides paresseux et aveugles pour ne rien faire, nous conduisant dans le fossé de la captivité spirituelle, tout en prenant notre argent, ce que Jésus, Pierre et Paul interdisent, 1 Pé 5 2 Matthieu 18. Bien sûr, nous ne pouvons pas être sauvés par les œuvres seules, mais notre foi doit être attestée par bien plus qu'une simple affirmation que nous sommes sauvés par la foi, sans rien faire d'autre que prétendre être sauvés par grâce parce que la Bible me le dit, en utilisant quelques rares versets sélectionnés et tordus hors de leur contexte pour étayer leurs fausses prétentions. Bien sûr, nous sommes sauvés par la grâce, mais après la repentance et après avoir porté notre croix dans la foi pendant un certain temps, des œuvres d'amour obéissant aux commandements de Dieu, de telles œuvres sont vivifiées et motivées par la foi. Voir la note de bas de page à Rome 3, 28 pour plus de détails. Chers lecteurs, ne désespérez pas. Une fois que vous comprenez comment recevoir la vraie grâce, vous pouvez être rendu sans péché par la puissance de Dieu. Mais ce n'est pas instantané, et cela exige que vous cherchiez de tout votre cœur, que vous attendiez dans un silence humble en écoutant, entendant, observant et obéissant, de manière répétée, patiente et persévérante jusqu'à la fin. Vous pouvez avoir la joie d'entendre votre Sauveur vous parler, vous enseigner, vous aider et vous aimer. À la fin, vous verrez votre Sauveur apparaître au-dedans de vous, lorsqu'il s'unira à vous, vous pouvez avoir communion avec le Père et le Fils, vous pouvez avoir paix, joie, amour, douceur, bonté, participer à la nature divine, toutes les merveilleuses promesses de Dieu sont disponibles dans cette vie sur la terre, puis pour toujours. Lisez John 14 et John 17 pour comprendre les vraies promesses de Jésus, la véritable espérance qui peut libérer la puissance de Dieu pour purifier votre cœur et votre âme. Mais vous devez d'abord être purifié dans cette vie, car de ceci vous pouvez être certain, aucun homme sexuellement immoral, impur ou cupide, qui est idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vaines paroles, car c'est à cause de telles choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la désobéissance, F5:5-6. Le faux évangile de la grâce est de vaines paroles, destiné à vous tromper, à vous convaincre de ne rien faire, en demeurant dans vos péchés, afin que votre âme soit détruite. Faites donc mourir, mettez à mort les œuvres du corps qui relèvent de la vie terrestre, fornication, impureté, passion désordonnée, mauvaise convoitise de la chair, et cupidité, qui est idolâtrie. Col 3:5 Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair leur nature pécheresse avec ses passions et ses désirs convoitises et affections. Gal 5:24 Mais maintenant, ayant été affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit récompense la sainteté, et pour fin la vie éternelle. Rome 6:22 De faux prophètes, prédicateurs et enseignants, ont tordu la grâce en mensonge, la faisant passer d'un enseignement de repentance menant à la pureté à une licence pour l'immoralité, et la persistance dans notre nature pécheresse, sans repentance requise. Cette perversion a commencé il y a 2000 ans dans l'Église primitive. Jude a écrit en 1:4 « Car certains hommes se sont glissés parmi vous à votre insu, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en absence de loi et en débauche, une licence pour l'immoralité, et qui renient et désavouent notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. S'étant glissés, parmi les chrétiens sanctifiés, eux aussi prétendraient être chrétiens. Bien sûr, ils diraient qu'ils croient en Jésus et en Dieu, mais ils niaient la nécessité de l'onction gouvernante de l'Esprit de Christ pour régner sur leur cœur. En demeurant dans le péché, ils nient que Jésus soit leur Seigneur et Maître réel, contrôlant parfaitement nos pensées, nos paroles et nos actes. Renier le Seigneur, c'est marcher à l'opposé de la sainteté, de la justice et de la vérité. Renier le Seigneur ne consiste pas seulement à dire que Jésus n'est pas le Seigneur. On renie le Seigneur comme son Seigneur, qui contrôle ses paroles et ses actes par la preuve de paroles et d'actes impies. Judas a embrassé Jésus et a dit « Salut, Maître !» et malgré ses paroles, ses actes de trahison ont nié que Jésus fût son Seigneur et Maître. La chrétienté renie et désavoue Jésus aussi en enseignant un salut instantané par la grâce, tout en ignorant les enseignements de Jésus sur les exclusions, les exigences et les conditions qualificatives du salut. Ils l'embrassent, l'appellent Maître, puis le trahissent pour satisfaire leurs convoitises et leurs désirs. Ignorer ses enseignements et ses commandements, c'est renier et désavouer Jésus comme Seigneur et Maître. Jésus n'est Seigneur ni Maître de personne qui pèche encore. Comme il l'a dit en vérité je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. John 8:3 Si vous péchez encore, vous marchez encore selon les voies de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air Satan, F2:2-3, Satan est votre Seigneur. Ces faux chrétiens nient la nécessité du résultat de la voie étroite, où Jésus prend le contrôle total d'eux, tout en professant la fausse doctrine de la voie large et facile d'un salut instantané. Christ ayant payé pour tous vos péchés passés, présents et futurs, un péché sans conséquence, la licence de l'immoralité par la permission de la grâce. Il nie la nécessité de la repentance, la perfection, la pureté et la sainteté, toutes rendues possibles en portant la croix intérieure du renoncement à soi. C'étaient des hommes charnels, non crucifiés, n'ayant pas reçu l'Esprit de Dieu par l'obéissance. Le faux évangile de la grâce était vendu comme salut il y a 2000 ans. Malheureusement, le salut instantané et faux est devenu universel, toutes les sectes étant des sectes déficitaires. Pierre nous a même avertis d'être prudents avec les lettres de Paul, source du faux évangile, qui était romain, voire ci-dessous, car elles étaient facilement mal comprises. Comme notre bien-aimé frère Paul aussi, selon la sagesse qui lui a été donnée, vous a écrit, comme il le fait dans toutes ses lettres, parlant en elles de ces choses. Il s'y trouve des points difficiles à comprendre, que les ignorants et les inconstants tordent des formes pour leur propre destruction, comme ils le font aussi des autres Écritures. Ainsi donc, bien-aimés, puisque vous savez ces choses d'avance, prenez garde, de peur qu'étant entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre propre fermeté. 2 Pite 3:15-17. L'égarement des impies consiste à penser que la méchanceté et le péché est excusé par la grâce. Si vous ne lisez Romains que partiellement, vous pouvez facilement mal comprendre la grâce, pensant que vous n'avez rien à faire sinon croire en Jésus. Mais si vous regardez la lettre entière, comme elle était destinée à être lue, vous savez que vous devez faire mourir votre nature pécheresse pour plaire à Dieu. Regardez Paul en Romains 8:8, Romains 8:13, Philippiens 2:12, Galatiens 5:19-24, 2 Cor 7:1-4-7, 1 Cor 15:34, et j'ai déclaré qu'il devait se repentir, se tourner vers Dieu et faire des œuvres en accord avec la repentance. Voir Actes 26:20 si vous avez le moindre doute. Et Pierre a décrit plus tard de tels hommes encore. Cela est particulièrement vrai de ceux qui s'abandonnent à la chair dans des convoitises corruptrices et méprisent l'autorité telle que ce que les apôtres ont tenté de corriger. 2 Pite 2:10. Puis en continuant, avec 2 Pite 2:13, « Et ils recevront le salaire de l'injustice, comme ceux qui estiment agréable de se livrer à la débauche en plein jour. Ce sont des taches et des souillures, se complaisant dans leur tromperie pendant qu'ils festoient en entendant la parole prononcée dans la communion avec vous. » Ayant les yeux pleins d'adultère, convoitise et amour du monde, incapables de cesser de pécher, séduisant les âmes mal affermies. Ils ont exercé leur cœur à la cupidité, ce sont des enfants de malédiction, qui ont abandonné le droit chemin et se sont égarés suivant la voie de Balaam, fils de Bozor, qui a aimé le salaire de l'injustice qui prêchait pour de l'argent, ce que Pierre a interdit. Il fut repris pour son iniquité par une ânesse muette, qui, parlant d'une voix humaine, arrêta la folie du prophète. Fox a dit que le progrès spirituel des ministres de son époque était inférieur à celui de l'ânesse de Balaam, parce que l'ânesse a prononcé la parole du Seigneur, mais que les ministres ne pouvaient même pas entendre la voix du Seigneur, encore moins prononcer la parole du Seigneur. Ils ne pouvaient que citer la Bible, exactement comme les ministres d'aujourd'hui. Ces hommes sont des puits sans eau, des nuées que la tempête emporte, et pour lesquels l'obscurité la plus noire est réservée. Car en prononçant des discours enflés de vanité, ils séduisent, par les convoitises de la chair et beaucoup de débauches, ceux qui échappaient à peine à ceux qui vivent dans l'erreur. Alors que ces faux docteurs leur promettent la liberté, ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption péché, immoralité, car de quoi un homme est vaincu, il est esclave. 2 Pite 2:12-19. Et Jésus a dit, « En vérité, je vous le dis, quiconque pèche est esclave du péché. » John 8:34, et Paul aussi a parlé de faux chrétiens qui s'opposaient à la crucifixion de la nature pécheresse. « Frères, soyez mes imitateurs, et observez ce qui marche selon le modèle que nous vous avons donné, de sorte que vous nous ayez pour exemple. Car beaucoup marchent dont je vous ai souvent parlé, et dont je vous parle encore en pleurant, qui sont les ennemis de la croix de Christ. Leur fin est la perdition, leur Dieu c'est leur ventre désir, convoitise, et leur gloire est dans leur honte, ils ne pensent qu'aux choses terrestres. » Philippiens 3:17-19 « Car si vous vivez selon la chair nature pécheresse, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir, mettez à mort les actions du corps, vous vivrez. » Romains 8:13 « Tant que nous vivons dans notre nature pécheresse, nous sommes indisciplinés et incapables d'être gouvernés, contrôlés ou conduits par un seigneur ou un roi. Donc, si vous voulez que Jésus soit votre seigneur et roi, vous devez mettre à mort votre nature égoïste et pécheresse par une repentance qui mène à la pureté. » Francis Haugel, ministre martyr des premiers Quakers, expose les dangers du faux évangile de la grâce. Beaucoup ont été des discoureurs sur la grâce dans cet âge de profession, qui n'ont connu ni ce dont ils parlaient, ni n'ont informé l'esprit des hommes où la grâce devait être attendue, ni comment la grâce pourrait être connue, ni comment, ni quelle était l'opération de la grâce. Mais ils l'ont exalté dans leur propre imagination. Nous sommes justifiés par sa grâce gratuite de tout péché passé, présent et à venir. Votre alliance avec la mort sera annulée, et votre pacte avec l'enfer ne subsistera pas. Isaïe 28:18 Quand nous croyons au faux évangile de la grâce, sans rien qui nous soit demandé, toutes les Écritures concernant la repentance, le fait de mettre à mort le moi, de chercher, de s'efforcer, d'écouter, d'obéir aux commandements, d'obtenir un cœur et un esprit nouveau, la pureté, la perfection, perdre sa vie pour sauver sa vie, être sans péché, la sainteté et vivre sobrement, justement et pieusement dans le monde présent doivent être ignorées. Ou bien nous devons supposer que nous sommes purs et parfaits, ce qui relève du. Paul dit « Si, par l'esprit, vous faites mourir, mettez à mort les méfaits du corps, vous vivrez. » Nous ne pouvons pas, par nous-mêmes, mettre à mort les œuvres du corps jusqu'à la pureté, peu importe nos efforts. Comment apprenons-nous à vivre sobrement, justement et pieusement dans le monde présent? Comment nous purifier et nous préparer à recevoir le Christ glorieux et son royaume dans nos cœurs? Nous avons besoin d'aide, nous avons besoin que Dieu nous aide, et il n'y a rien que nous puissions faire pour mériter cette aide, nous avons besoin de grâce. Jésus a rendu accessible à tous la grâce de Dieu qui purifie le cœur et l'âme, mais nous devons accéder à cette grâce puissante en allant à Dieu pour recevoir ses enseignements, ses convictions et l'élimination puissante du péché hors de nos cœurs. Nous accédons à la puissance de Dieu par la grâce en l'attendant. Le salut, qui consiste à être délivré de tout péché, vient à ceux qui l'attendent. L'attendre, c'est s'asseoir patiemment et avec persévérance dans un silence humble, écouter sa voix et ses paroles, guetter ses révélations, entendre ses commandements, puis lui obéir. L'attente de Dieu est évoquée dans toute la Bible, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Attendre Dieu est la manière dont les croyants de l'Église primitive ont réalisé les promesses du vrai Évangile, être délivrés de l'esclavage du péché, entrer dans le royaume de Dieu et être en union avec Christ et Dieu. Ci-dessous se trouvent quelques-unes des nombreuses Écritures, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, qui parlent du bénéfice de l'attente. L'Éternel est bon pour ceux qui l'attendent, pour l'âme qui le cherche. L'âme 3:25 note, l'attendre c'est le chercher. Lire la Bible et participer aux offices de secte n'est pas chercher Dieu. Car depuis le commencement du monde, les hommes n'ont pas entendu, ni perçu par l'oreille, et l'œil n'a pas vu de Dieu en dehors de toi, qui agisse pour celui qui l'attend. Isaïe 64:4 Paul cite l'Écriture ci-dessus dans 1 Corinthiens, l'œil de l'homme n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, et l'esprit n'a pas imaginé, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. La différence clé, Esaïe dit attendre, 1 Cor 2:9-10. Donc aimer Dieu, c'est l'attendre, nous l'attendons pour entendre ses paroles qui nous enseignent et nous convainquent, nous encouragent et nous guident, cela c'est aimer Dieu. À ceux qui l'attendent avec persévérance et patience, il apparaîtra une seconde fois, non pour porter le péché, mais pour apporter le salut complet. Hébreux 9:28 Une attente persévérante et patiente, c'est être témoin de Jésus qui vous apporte votre salut. Ce que vous entendez, vous devez y prendre garde et y obéir pour obtenir le salut. Ayant été rendu parfait, il Jésus est devenu l'auteur et la source du salut éternel pour tous ceux qui lui prêtent attention et lui obéissent. Hébreux 5:9 C'est par la grâce que vous êtes enseignés et transformés pour devenir purs. Tite 2:11-14 Attendre Dieu donne accès à la puissance de l'Esprit qui détruira la nature pécheresse en nous, par notre obéissance à la croix intérieure du renoncement à soi. Attendre Dieu est la manière de répondre à Jésus nous disant « Venez à moi », dit de nombreuses fois dans les Écritures. Cliquez pour les voir tous, ci-dessous en voici plusieurs, « Venez à moi ». Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. Matthieu 11:28-29 Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jean 6:37 Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et ne lui donne la fin de venir à moi, et je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6:44 Jésus répondit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jean 6:35 Jésus a dit, « Ne travaillez pas pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui subsiste jusque dans la vie éternelle que le Fils de l'homme vous donnera. Je suis le pain de vie, le pain vivant descendu du ciel. Car c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit, et elles donnent la vie. » Jean 6:27-48-51-63 Attendre Dieu, c'est aller à Dieu par vous-même, parce que chacun a déjà son esprit au-dedans de lui par grâce. Vous n'avez besoin d'aucun enseignant, sinon l'onction en vous, 1 John 2:27. Vous vous asseyez tranquillement, et chaque fois que vous pensez au nom de Jésus. C'est ainsi que nous apprenons de lui, que nous sommes purifiés par lui, conduits par lui, et que nous en venons à le connaître. Il a dit, « Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Il est la lumière, il est la parole, et il nous a envoyé l'esprit de vérité pour nous enseigner. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » Rêve 3:20 Finalement vous l'entendrez. Il a une voix douce, c'est pourquoi il est écrit, « Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. » Il nous dira des choses à son sujet, il nous encouragera, il est bonté, il nous dira ou nous montrera des choses à notre sujet, certaines seront laides. Christ la lumière nous montrera toutes les convoitises cachées, les affections et l'orgueil dans notre cœur, mais puisqu'il est notre ami, nous savons qu'il nous les montre pour notre bien, alors nous écoutons et nous observons. Et nous ne fuyons pas, nous nous tenons devant le Fils de l'homme, et nous nous repentons de ce qu'il nous montre, et parfois il nous donne des commandements, nous entendons la parole de Dieu, la parole vivante. En entendant la parole de Dieu Jésus parlant par l'Esprit, notre foi augmentera à pas de géant, et continuera d'augmenter, si nous obéissons à ses commandements, et lui montrons que nous l'aimons par notre obéissance. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Col 1:27 Quiconque vient à moi, écoute mes paroles prononcées et les met en pratique, les pratiques, obéit, je vous montrerai à qui il ressemble. Il est semblable à un homme qui a bâti une maison, a creusé profondément et a posé le fondement solidement sur le roc. Et quand la crue est venue, le torrent s'est jeté avec violence contre cette maison, mais il n'a pu l'ébranler, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais celui qui entente et ne met pas mes paroles en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté avec violence contre elle, et aussitôt elle s'est écroulée, et la ruine de cette maison a été grande. Luc 6, 46-50 Il ne peut pas être plus clair. Il a dit, « Venez à moi, écoutez mes paroles prononcées par la Bible, et faites-les, mettez-les en pratique. Les faire, c'est obéir, et quand vous leur obéissez, vous avez reçu Christ par reconnaissance et obéissance. Sur ce fondement sûr, il bâtit une vraie foi et une vraie espérance qui vous purifie. Si quelqu'un m'aime, il obéira à mon enseignement. Mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » John 14, 22-23 Les enseignements de Jésus ci-dessus sont le message central de ce site web. Venez à lui, écoutez ses paroles, faites mettez en pratique, obéissez les paroles qu'il vous donne. Faire ses paroles, c'est obéir à ses commandements, dont certains vous reprendront et vous corrigeront. Tout ce que j'aime, je les corrige, reprend châtie. Soyez donc zélés et repentez-vous. Rev 3:19 Si vous aimez Jésus, vous lui obéirez. Alors le Père vous aime, et lui et Jésus viennent à vous et font leur demeure en vous. Et leur demeure est un royaume, le royaume de Dieu qui est au-dedans de vous et autour de vous. Alors attendez, veillez, écoutez, entendez, obéissez. Attendez, veillez, écoutez, entendez, obéissez. Cherchez, écoutez, obéissez. Persévérez, et Christ vous conduira par la repentance jusqu'à l'union et au royaume. Il récompense ceux qui le cherchent avec diligence. Hébreux 6. La diligence est définie comme le fait de s'appliquer continuellement et de s'efforcer d'atteindre un but, travailler, persévérer. Voilà comment obtenir le royaume de Dieu pendant que vous êtes sur terre. Lui, avec son royaume à vous donner, vous attend pour que vous veniez. Ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Luc 12, 32 S'asseoir dans un silence humble, penser au nom de Jésus et attendre que le Seigneur nous parle, par sa parole vivante, ou nous révèle, par sa lumière, ce qu'il y a dans notre cœur, ce n'est pas ce que notre chair veut faire. Au lieu de s'asseoir tranquillement chaque jour en attendant le Seigneur, notre chair veut dormir, ou s'inquiéter, ou planifier sa journée, ou penser à quelque chose, ou faire quelque chose, n'importe quoi. Notre esprit passera frénétiquement d'un sujet à l'autre dans un effort désespéré de se sauver lui-même, quiconque perd sa vie la conservera. C'est une croix pour la volonté d'un homme de s'asseoir dans un silence humble pour attendre Dieu, en écoutant et en observant, tout en luttant pour empêcher son esprit d'errer. C'est une croix pour la volonté d'un homme d'obéir à ce qui lui est commandé et enseigné par le Saint-Esprit. C'est cette croix dont vous devez vous renier vous-même et la prendre chaque jour, puis suivre Jésus. Obéir à sa voix, c'est suivre Jésus. C'est ainsi que vous faites ce que vous avez prié 1000 fois, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous ne pouvez pas être son disciple, à moins de porter votre croix chaque jour et de suivre ses ordres. Le salut n'est reçu que par ceux qui suivent l'agneau partout où il va, qui obéissent complètement à la voix du Seigneur, en tout ce qu'il commande. Ne vous découragez pas si vous n'entendez pas pendant un certain temps. Même votre attente est à votre crédit. Que ta bonté, ô Éternel, soit sur nous, selon que nous t'attendons et espérons en toi. Psalm 33, 22 de la parole du Seigneur au-dedans. Quand tu t'y assides et attends, espère la pureté, espère le changement. Je te montrerai les péchés secrets de ton cœur. Le Seigneur est doux et bon envers ce qu'il reprend, et encore plus que d'ordinaire envers ce qui se trouve dans des circonstances de souffrance. Les paroles que je te dis communiquent la vie. C'est l'Esprit qui donne la vie, rien d'autre. Ma vie vient par petits incréments. L'espérance libère la puissance de Dieu pour te transformer. S'asseoir dans un silence humble, en attendant le Seigneur, c'est porter la croix, au lieu de penser à la manière dont tu pourrais plaire aux autres. L'œuvre de la croix consiste à s'asseoir dans la lumière et à regarder ta volonté. Dans ce processus où tu portes ta croix, ton péché disparaît graduellement, au-dedans et au-dehors, à ta satisfaction. Les désirs disparaissent à mesure que l'homme charnel diminue. Petit à petit, la volonté du Seigneur progressera. Le salut, c'est être libéré même du désir de tes péchés. Ceux qui ont été crucifiés en ont fini avec le péché comme moteur, et cela doit être ressenti de l'intérieur. Il y a beaucoup d'autres messages du Seigneur disponibles à lire, rassemblés dans une boîte en haut à droite de la page d'accueil de ce site. Voici la croix intérieure du renoncement à soi et quiconque ne porte pas sa propre croix et ne vient pas après moi ne peut pas être mon disciple. Luc 14, 27 Ceux qui appartiennent à Christ Jésus ont crucifié la chair, nature pécheresse avec ses passions et ses désirs, convoitises et affections. Galates 5, 24 La croix, se renier soi-même doit être portée chaque jour pour réussir. La croix est pour vous la puissance de Dieu, ce qui est folie pour les autres. La foi dans le vrai évangile est la puissance de Dieu. C'est le commencement de la croix. Il y a aussi de la souffrance avec la croix, car lorsque vous aurez été suffisamment préparé par sa grâce et ses enseignements, vous entrerez dans la tribulation pour approfondir la mort de votre nature pécheresse. Car vous avez été appelés à cela parce que Christ aussi a souffert pour nous, nous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Ainsi donc, puisque Christ a souffert pour nous dans la chair, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Afin que vous ne viviez plus le reste de votre temps dans la chair selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. 1 Pé 2, 21, 4, 1-2. Pour mieux comprendre la nécessité d'apprendre dans le silence, voyez l'écrit remarquable de George Fox sur Why Silence, aussi dans la barre latérale. Voyez How to Benefit from the Changing Power of God pour plus d'informations, aussi dans la barre latérale. Lisez la Bible pour garder votre espérance élevée, Psalme John Pitt, mais en lisant la Bible, n'espérez pas entendre. Souvenez-vous de ce que Christ a dit à propos des enseignants et des étudiants de la Bible à son époque. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. John 5, 39, 40. Lisez quelques écrits de George Fox sur ce site. Et n'oubliez pas de donner, surtout aux pauvres, différez, soyez bienveillants. De George Fox, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, qui leur enseignerait à renoncer à toute impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre avec sobriété et piété dans le monde présent. Afin que tout homme et toute femme puissent connaître la grâce de Dieu, qui est apparue à tous les hommes, qui était salvatrice et suffisante pour amener leur salut. Ce maître, la grâce de Dieu, leur enseignerait comment vivre, quoi faire et quoi refuser, elle assaisonnerait leurs paroles et affermirait leur cœur. Si vous tous, dans ce qu'on appelle toute la chrétienté, venez à la lumière dont le Christ Jésus vous a éclairé, afin qu'avec elle vous puissiez voir votre salut, et connaître le Christ votre maître, le chef de votre salut, et la grâce qui vient par lui, qui apporte votre salut. Cette grâce nous enseigne, elle est suffisante dans la faiblesse et la tentation, et elle apporte le salut. C'est par elle que nous sommes sauvés. Elle enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre avec sobriété et justice. Et c'est là notre maître qui a. C'est pourquoi saignez les reins de votre esprit, afin d'attendre la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. Considérez l'exhortation de Pierre. Or ceux qui se détournent de la grâce pour tomber dans la débauche absence de retenue, et qui marchent avec mépris contre l'Esprit de Dieu, se donnent des maîtres selon les convoitises de leur propre cœur. Et de tels gens apprennent toujours sous leur conduite, sans pouvoir parvenir à la connaissance de la vérité, et ainsi ils entrent et demeurent dans les convoitises terrestres, l'impiété, les tentations et les faiblesses, où il y a deuil et plainte, et où les affligés sont nombreux. Venez donc à la grâce de Dieu, et c'est elle qui vous fera voir votre impiété. Prenez donc garde à la grâce de Dieu, le maître en tout temps qui apporte le salut. Par elle vous pouvez voir votre salut, par elle vous pouvez voir votre salut s'accomplir, car le jour puissant du Seigneur vient contre toute l'injustice des hommes. Le Seigneur Dieu, son Fils, se manifeste vers vous, à qui toute puissance dans le ciel et sur la terre a été donnée, lui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Recevez donc la lumière dont il vous a éclairé, afin que vous le receviez. Ouvrez vos portes afin que le roi de gloire entre, lui qui se tient à la porte et frappe. Tournez-vous vers la lumière, et vous ouvrez la porte, là où l'entrée du roi de gloire est vue. Et quittez toutes les montagnes stériles qui sont dans la chute, hors de l'image, de la vie et de la puissance de Dieu, sortez de tous les puits sans eau, des tempêtes et des nuages sans pluie qui errent çà et là. Venez à la lumière, et recevez la lumière, afin que dans la lumière vous receviez Christ et deveniez ses fils, afin que, par elle, vous voyiez paraître l'étoile du matin, là où les fils de Dieu chantent ensemble. Car malheur au monde qui gît dans la méchanceté, car le Seigneur est venu pour le juger, et pour rendre à tous les hommes selon leurs œuvres, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, et avec la lumière, chacun de vous peut savoir si ses œuvres sont bonnes ou si elles sont mauvaises, car ce qui peut être connu de Dieu est manifesté en vous, ce que Dieu vous a montré, lorsque vous faites ce qui est injuste ou digne de mort, par ce qui est de Dieu en vous, vous pouvez le discerner. Et lorsque vous vous éloignez de ce qui est de Dieu au-dedans de vous, vous ne glorifiez pas Dieu comme Dieu, mais vous devenez étranger à sa vie, étranger à l'alliance de vie, et à la paix qui est en Christ, et ainsi vos cœurs insensés viennent à être obscurcis et remplis d'injustice, et sur de tels viennent les jugements et la colère de Dieu. Ceux qui sont affranchis de la colère à venir, ce sont ceux qui sont venus à ce qui est de Dieu en eux, à la lumière, et ainsi ils voient Christ, l'alliance de paix, qui détruit le diable et enlève l'inimitié qui est entre eux et le Seigneur, d'où viennent la colère, le malheur et la misère. Par cette lumière Christ, l'alliance de Dieu, l'homme est amené à la paix avec Dieu et sauvé de la colère à venir, de toutes les voies fausses, des enseignements, du culte faux, des fausses églises, des commandements, des traditions, des rudiments, des cultes de volonté. Car depuis le commencement, lorsque l'homme est tombé loin de Dieu, loin de sa puissance et de son image, toutes les fausses voies, les faux cultes, les fausses églises ont été établies, et cela par cet esprit, cette puissance et cette sagesse qui sont hors de la vérité, en bas qui a tué autour d'eux. Ainsi il y a un chemin où se trouve la vie, et il est la lumière qui vous éclaire. Et donc à la lumière, et vous venez au chemin qui était avant que le pouvoir de la mort fût, dont le nom est Christ, et ceux qui sont hors de la lumière sont hors de lui, dans les voies de la mort, des ténèbres et de la captivité. Car de même que les Juifs du dehors étaient en captivité sous Pharaon, ainsi les Juifs intérieurs dans l'esprit sont en captivité dans Sodome et l'Égypte spirituelle, qui ne prêtent pas attention aux directions de l'esprit et n'écoutent pas ce qu'il dit. car chacun doit écouter et entendre ce que l'Esprit dit. Si vous êtes un enseignant d'une secte ou un prédicateur, vous ne pourrez pas entendre, parce que vous êtes en captivité, ayant conduit d'autres en captivité, Apoc 13 et 10. Pour pouvoir entendre, vous devez cesser d'enseigner ou de prêcher jusqu'à ce que vous soyez perfectionné, ajusté et remis en ordre par Christ. Luc 6 40, voir Teachers and Preachers pour plus de détails. Vous devez avoir communion avec Christ dans ses souffrances. 1 Pie 4 12 13 si vous voulez régner avec lui, vous devez souffrir avec lui. 2 Tim 2 12 si vous voulez vivre avec lui, vous devez mourir avec lui. 2 Tim 2 11 et si vous mourrez avec lui, vous devez être enseveli avec lui. Rome 6 4 et étant enseveli avec lui dans le vrai baptême, vous ressuscitez aussi avec lui. Col 2 12 F 2 6 il doit y avoir une entrée dans sa mort, une souffrance avec Christ, et cela est nécessaire au salut, et non pas temporairement, mais continuellement, il doit y avoir une mort quotidienne. Voir How to Burn Free from the Changing Power of God pour plus d'informations sur la manière d'entendre, de voir et d'être transformé. Ici sont exposés les arguments du faux évangile de la grâce. Les mensonges sur la foi et la croyance, les guides aveugles du christianisme nous disent que, parce que nous avons la foi par la croyance en Jésus, nous sommes sauvés par grâce. Cependant, la foi que les apôtres prêchaient n'était pas la foi extérieure, répandue dans le christianisme, mais une foi intérieure. L'objet des deux fois est le même, mais les différences sont cruciales pour réaliser les promesses de Dieu. Les deux fois sont, reconnaître, avec l'histoire rapportée dans la Bible, que Jésus était le Fils de Dieu, né d'une vierge, ressuscité des morts, monté au ciel, etc. C'est la foi biblique extérieure, entendre la parole de Dieu, laquelle parole est dans votre cœur pour être obéi, c'est la parole de la foi que les apôtres prêchaient. Entendre Jésus, vous parler depuis l'intérieur de votre cœur et lui obéir est la foi en action, la foi intérieure, la foi que Jésus lui-même vous donne. Par une obéissance persévérante aux commandements entendus de Dieu dans votre cœur, cette foi intérieure justifie, purifie, rachète, rend juste, sanctifie et sauve, pour vous donner paix, joie et justice dans l'union et la communion avec Christ et le Père, c'est voir et écouter votre bien-aimé, en menant une vie sainte qui lui plaît. George Fox a écrit au sujet de cette foi intérieure et de l'attention nécessaire, « Le Père est en vous tous, Christ est en vous, et le royaume des cieux est en vous, c'est là, dans vos cœurs, que vous les trouverez tous. Connaissez-le là, sont dans vos cœurs, et trouvez-le là, éprouvant vos esprits et vos cœurs, inclinez vos oreilles, et prêtez-lui l'oreille là, lui qui rendra à chacun de vous selon vos paroles et vos œuvres, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et il ne suffit pas de croire que Jésus est le Fils de Dieu, même les démons croient que Jésus est le Fils du Dieu très haut, et ils tremblent. Vous devez croire ce que Jésus, la lumière et la parole au-dedans de votre cœur, vous montre et vous dit. Croire ce qu'il vous dit et vous montre, c'est croire en Jésus. Christ est la lumière donnée à tout homme afin qu'il puisse croire. Jean 1 1 4 7 9. Croire, c'est croire ce que vous l'entendez vous dire, croire assez pour prendre garde et obéir à Jésus, qui est la parole de Dieu et la lumière de la parole dans le cœur de chaque homme, qui vous reprend anonymement ainsi que tout homme au sujet du péché. Pour plus de détails sur ce sujet, voir la note de bas de page à Jean 3 16. Les mensonges sur la justice, les guides aveugles du christianisme utilisent aussi les écritures suivantes, sorties de leur contexte, pour étayer leur affirmation selon laquelle vous avez la justice de Christ par grâce. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Romains 3 dit « Il n'y en a aucun qui comprenne, aucun qui cherche Dieu. » Romains 3 « Ils se sont tous égarés ensemble, ils sont devenus inutiles. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, non, pas même un seul. » Romains 3 12 « Personne n'est juste en dehors de Dieu, personne ne décide de chercher Dieu de lui-même, Dieu nous attire à lui. » Par conséquent, personne ne peut se glorifier, car nul ne sera déclaré juste devant lui par les œuvres de la loi, au contraire, par la loi vient la connaissance du péché. Romains 3, 20 Nous ne pouvons pas obtenir la justice en accomplissant des œuvres de la loi. Cependant, les guides aveugles ne savent rien des œuvres de la foi expliquées ci-dessous, et ils ignorent que nous restons soumis aux lois morales, la loi intérieure dans le cœur de chaque homme, par laquelle tous les hommes seront jugés, et qui n'a jamais été abrogée. Mais maintenant, la justice de Dieu sans la loi est manifestée, attestée par la loi et les prophètes. Rome 3, 21 Même la justice de Dieu par la foi de Jésus-Christ, pour tous et sur tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence. Rome 3, 22 Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Rome 3, 23 Nous concluons donc que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Rome 3, 28 Mais à celui qui ne fait pas d'œuvre, et qui croit en celui qui déclare juste l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. Rome 4 5 Ils disent de s'appuyer sur la justice imputée de Christ qui nous est attribuée, sur la base de notre foi, comme ce fut le cas pour Abraham. Rome 4 3 11 La foi d'Abraham n'était pas simplement la croyance en Dieu. Abraham a obéi à la voix de Dieu. Gênesis 22 18 26 5 La foi d'Abraham consistait à écouter les paroles de Dieu, à les entendre, puis à leur obéir. Sa foi produit des œuvres d'obéissance qui ont prouvé son amour pour Dieu. Entendre les paroles que Dieu prononce et leur obéir est la vraie foi que les apôtres prêchaient aussi. Dieu a également ordonné à Abraham de marcher devant moi et d'être parfait. Genèse 17:1. De même qu'Abraham a exercé sa foi pour être circoncis, comme il lui fut ordonné, ainsi nous devons recevoir la circoncision spirituelle, notre cœur circoncis du péché. De même qu'Abraham a exercé sa foi pour quitter sa maison vers un nouveau pays, comme il lui fut ordonné, ainsi nous devons renoncer au monde entier pour entrer dans le royaume de Dieu. De même qu'Abraham a exercé sa foi, prêt à sacrifier Isaac, comme il lui fut ordonné, ainsi nous devons crucifier notre vie égoïste pour sauver la vie de notre âme. Abraham a patiemment persévéré dans l'obéissance au commandement de Dieu avant d'obtenir la promesse. Hébreux 6:15. Si Abraham n'avait pas obéi à la voix de Dieu dans tout ce qui précède, vous liriez l'histoire d'un autre homme au lieu d'Abraham. Abraham s'est exposé pour entendre les commandements de Dieu. Comme Abraham, nous aussi devons nous exposer pour entendre les commandements de Dieu, l'entendre, lui obéir, et continuer ainsi avec une endurance patiente jusqu'à la fin. Sinon nous ne serons pas libérés du péché, nous n'atteindrons pas la justice, et nous serons exclus du ciel à notre mort. La justice vient par la foi en Jésus, mais la foi qui impute la justice n'est que la foi qui affranchit de la loi. Cette mesure de foi qui affranchit est reçue avec le fruit de l'Esprit, et cela n'arrive qu'après avoir crucifié vos convoitises et vos affections sur la croix intérieure du renoncement à soi, et cela ne se fait ni instantanément ni facilement. Paul précise, car par l'Esprit, par la foi, nous attendons patiemment l'espérance de la justice. Galates 5:5. Paul ajoute, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Romains 6:16-19. Obéissance à quoi? Aux commandements et aux enseignements que nous entendons du Seigneur pendant que nous l'attendons. Jésus a dit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5:6. Comment quelqu'un pourrait-il avoir faim et soif de justice s'il est instantanément juste en croyant simplement en Jésus? Jésus a encore dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Matthieu 6:33. Nous devons chercher la justice de Dieu comme priorité suprême dans notre vie, plus que la nourriture et le vêtement. Paul encore, réveillez-vous pour la justice et ne péchez pas, car certains n'ont pas la connaissance de Dieu. Je dis cela à votre honte. Encore 15:34. Quiconque pense pouvoir continuer à pécher tout en étant juste n'a pas la connaissance de Dieu et doit en avoir honte. Il est clair que nous ne sommes pas instantanément justes parce que nous croyons ou avons la foi. Autrement, on ne nous dirait pas « avoir faim et soif de justice, chercher la justice comme priorité suprême dans notre vie, attendre la justice, que l'obéissance conduit à la justice, espérer la justice, se réveiller pour la justice et cesser de pécher ». Nous devons aller à lui pour recevoir sa grâce purificatrice afin de devenir juste, dont le fruit est la paix. Et l'effet de la justice est le calme et une confiance assurée pour toujours. Ésaïe 32:17. Étant justifié gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ, Romains 3:24. Mais cet accès à Dieu ne nous rend pas instantanément justifiés, car nous cherchons à être justifiés en Christ. Galates 2:17. De la parole du Seigneur au-dedans. Éphésiens 5:5-6. C'est le vide de la terre, rendu parfaitement clair, car vous pouvez être certain qu'aucun immoral sexuel, ni impur, ni cupide n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vaines paroles, car à cause de ces choses la colère de Dieu vient sur les fils de la désobéissance. Éphésiens 5:5-6. Le Seigneur dit que le monde entier ignore cet avertissement sévère, très clair, qui est crucial pour l'avenir de chaque personne, car tous ceux qui ne sont pas purs, ou immoraux, ou cupides seront exclus du ciel. Paul et Jean nous avertissent tous deux de ne pas être trompés, que personne ne vous séduise par de vaines paroles, car à cause de ces choses la colère de Dieu vient sur ceux qui sont désobéissants. Éphésiens 5:5-6. Vous devez devenir purs pour avoir quelque héritage que ce soit dans le royaume de Dieu et de Christ. Petits enfants, que personne ne vous trompe. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui est juste. 1 Jean 3:7. Vous n'êtes pas juste à moins de pratiquer la justice comme Jésus a pratiqué la justice. Jésus ne parlait, ne jugeait et n'agissait que selon ce que Dieu lui inspirait et lui ordonnait. Pour pratiquer la justice, nous aussi devons être capables de ne dire que ce que nous l'entendons nous ordonner de dire, et de ne faire que ce que Dieu nous ordonne de faire. Cette capacité ne vient qu'après avoir crucifié notre esprit égoïste, lorsque le péché a été détruit par l'esprit, par le port de la croix intérieure du renoncement à soi. Alors nous marchons comme lui a marché et dans le monde, comme il a été, avec perfection, pureté et sainteté. Les séducteurs vous disent que vous n'avez pas à être pur, les séducteurs vous disent que vous êtes juste tout en péchant. Le christianisme a été pris en main par des séducteurs qui vous disent que le péché est normal, acceptable, négligé par Dieu, annulé, etc. Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Rome 6, 16. Remarquez que l'obéissance conduit à la justice. D'abord, vous devez être obéissant, avec le temps, l'obéissance produit la justice. De même que vous avez auparavant livré votre corps à l'esclavage de l'impureté et du mal au mal, livrez maintenant votre corps à l'esclavage de la justice qui produit la sainteté. Rome 6, 19. Voir la note de bas de page à Rome 3, 22 pour mieux comprendre la justice imputée. Les mensonges sur les œuvres. Nous avons déjà expliqué ci-dessus comment la définition chrétienne de la foi et de la croyance n'a aucun fondement scripturaire, et comme on le voit ci-dessous, il en va de même pour la définition très large des œuvres dans le christianisme. Le cri de ralliement du protestantisme, pas par les œuvres, mais par la grâce et la foi, fondée sur les Écritures ci-dessous. Et si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce n'est plus la grâce. Mais si c'est par les œuvres, ce n'est plus la grâce, autrement les œuvres ne sont plus des œuvres. Rome 11, 6, car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Elle, la foi est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. F2, 8-9. Paul parle des œuvres mortes, issues de votre propre volonté, des œuvres de la loi, circoncision, ablution, sacrifice, aliments spéciaux, restrictions sabbatiques, jours, fêtes, dîmes, etc. Mais il n'exclut pas l'observation des lois morales écrites dans le cœur de chaque homme, ni les œuvres de la foi dans une obéissance aimant aux commandements que vous entendez prononcer par Dieu dans votre cœur, lesquels sont rendus possibles par la foi et sont essentiels. Vrai, les œuvres de la loi ne comptent pour rien. Les œuvres de la loi sont l'offrande de céréales, l'offrande de l'agneau, l'offrande du taureau, les ablutions, l'interdiction de manger certains aliments, la circoncision, la dîme, les sabbats, la célébration de jours, les fêtes, etc. Ce sont des œuvres mortes de la loi, dont le moment d'exécution est décidé par l'esprit charnel et la volonté de l'homme. Cependant, il existe une autre catégorie d'œuvres, les œuvres de la foi, qui sont des œuvres que vous entendez Christ, au-dedans de votre cœur, vous commander de faire, lorsque vous vous exposez à entendre ses commandements en attendant Dieu, c'est-à-dire en demeurant assis dans un humble silence, en écoutant sa voix et en guettant ses révélations. Obéir aux commandements de Dieu que vous l'entendez vous dire est des œuvres opérantes de la foi, que Paul a déclarées nécessaires, et à propos desquelles Jacques a déclaré que la foi sans les œuvres est morte. Ce ne sont pas des œuvres mortes que vous décidez de faire, ce sont des œuvres que Dieu veut que vous fassiez, et quand vous les faites, vous accomplissez sa volonté sur la terre comme au ciel. Ce sont des œuvres de la foi faites dans une obéissance aimante aux commandements que vous entendez Dieu vous dire de l'intérieur de votre cœur. Ce sont aussi des œuvres de vie, commandées par la vie de Dieu, Christ, et les paroles qu'il vous dit communiquent la vie de Dieu. Jean 6, 63. Cherchez, attendez, veillez, écoutez, entendez, croyez ce que vous entendez ou ce qui vous est montré, et obéissez, et finalement vous aurez reçu tant de la vie de Dieu que vous serez nettoyés et purifiés. Alors Dieu vous dirigera pour accomplir des œuvres d'amour, pour votre joie et sa gloire. Les vrais chrétiens ont crucifié leur esprit égoïste afin de devenir une nouvelle créature, dont les pensées, les paroles et les œuvres sont ordonnées par Dieu. Obéir à la voix de Dieu et faire les œuvres qu'il ordonne, c'est aimer Dieu, ce sont des œuvres d'amour pour lui. La première catégorie d'œuvres que vous entendrez Dieu vous commander de faire sont des œuvres de repentance, renoncer à vos mauvaises habitudes, passions et plaisirs. C'est la fonction de la grâce, nous enseigner à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre avec sobriété, justice et piété dans le monde présent. Tite 2:12. Les commandements que vous l'entendez vous dire doivent être gardés, retenus et obéis. S'il vous ordonne de renoncer à quelque chose dans votre vie, vous devez continuer à y renoncer. Les commandements que vous obéissez et gardez sont alors écrits dans votre cœur et votre esprit, complétant la loi intérieure déjà présente dans le cœur de chaque homme. Ainsi l'Écriture s'accomplit, je mettrai mes lois dans leur cœur, et je les écrirai dans leurs esprits compréhension intérieure. Hébreux 10, 16. Paul a dit, la gloire, l'honneur et la paix sont pour tout homme qui fait le bien. Rome 2, 10. Paul a dit, à ceux qui, par la persévérance dans les bonnes œuvres, recherchent la gloire, l'honneur et l'immortalité, il donnera la vie éternelle. Rome 2, 7. La foi doit être une foi opérante, attestée par des œuvres d'obéissance et d'amour envers Dieu, c'est-à-dire l'obéissance aux commandements entendus de l'Esprit de Dieu, tel est l'amour de Dieu. Les premières œuvres d'amour envers Dieu sont A. Attendre dans un humble silence en écoutant et en veillant à ses commandements, et B. Ensuite obéir à ses commandements prononcés que vous entendez, pour vous repentir des péchés qu'il révèle dans votre cœur. Considérons comment nous encourager les uns les autres à l'amour et aux bonnes œuvres. Hébreux 10, 24. Paul ne dit pas que vous pouvez ignorer les lois morales, être sans amour, immoral, avide, livré au plaisir, menteur, coléreux, etc. Paul a dit, « J'ai annoncé qu'ils doivent se repentir, se tourner vers Dieu et faire des œuvres conformes à la repentance. » Acte 26, 20. Paul a dit, « Continuez à travailler à votre propre salut avec crainte et tremblement. » Philippiens 2, 12. Paul a dit, « Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant la sainteté dans la crainte de Dieu. » 2 Corinthiens 1, Paul a dit, « Recommande à ceux qui sont riches dans ce monde de ne pas être orgueilleux, ni de mettre leur confiance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant qui nous donne richement toutes choses pour en jouir. Recommande qu'ils fassent le bien, qu'ils soient riches en bonnes œuvres, qu'ils soient généreux, partageant avec les autres. » 1 Tim 6, 17-18. Si vous vivez dans une nation prospère et industrialisée, vous êtes riche, comparé au reste du monde. Soyez donc riches en bonnes œuvres. Paul a dit, « La gloire, l'honneur et la paix sont pour tout homme qui fait le bien. » Rome 2 dit, « Paul a dit, à ceux qui, par la persévérance dans les bonnes œuvres, recherchent la gloire, l'honneur et l'immortalité, il donnera la vie éternelle. » Rome 2, 7, Pierre a dit, « Quiconque le craint et pratique la justice est agréé de lui. » Acte 10, 35, Pierre encore, « Faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance, la piété. » 2 Pierre 5, si Jésus a dit, « Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. » Luc 13, 3, « La repentance exige un effort de votre part. Et autant j'aime, autant je châtie reprends discipline. Soyez donc zélés et repentez-vous. » Apoc 3, 19, « Zélé signifie rempli d'un ardent désir, enthousiaste. » Jésus a encore dit, « Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. » Matthieu 11, 29, Jésus a dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. » Luc 9, 23. Dans ses messages aux sept églises, Jésus mentionne à chaque église combien leurs œuvres sont déterminantes. Jésus a dit, « Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. » Apoc 3, 2, 3. Il veut des œuvres parfaites animées par la foi. Écoutez, Jésus a dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Luc 13, 24. Matthieu 7, 13, 14. L'évangile de la grâce voudrait vous faire croire que l'effort est inutile. Pourtant Jésus nous a ordonné de nous efforcer, de faire tous nos efforts. Jésus dit encore, « Étroite est la porte et resserré est le chemin qui mène à la vie, et peu le trouvent car beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Les avertissements de Jésus ne contredisent-ils pas gravement le salut instantané et la grâce instantanée? Lecteur bienveillant, prenez au sérieux ce que Jésus dit. Avoir récité une prière de pécheur et avoir été mouillé n'est pas difficile à trouver ni à faire. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin que ses actes soient manifestés comme ayant été accomplis, formés et rendus possibles par Dieu. Jean 3, 21. Un vrai croyant fait la vérité ou pratique la vérité, fait ce qui est juste. Il en a fini avec le péché, avec le fait de faire ce qui est mal. Un croyant vient à la lumière, sans peur, pour montrer que ses actes ou œuvres ont été produits par Dieu ou opérés divinement, formés, suscités et animés. La grâce et le salut de Dieu sont fournis pour créer un peuple consacré aux bonnes œuvres, afin que vous marchiez d'une manière digne du Seigneur, lui étant agréable en toutes choses, portant du fruit en toute bonne œuvre. Col 1, dit Paul a encore dit, le but de la grâce est de purifier un peuple particulier zélé pour les bonnes œuvres. Titus 2, 11-14. Paul expose le dessein de Dieu dans le salut, car nous sommes son ouvrage, créés en Christ Jésus pour de bonnes œuvres. F 2, 10. Or que le Dieu de paix vous rende parfait en toute bonne œuvre pour faire sa volonté, opérant en vous ce qui est agréable à ses yeux par Jésus-Christ. Hébreux 13, 20-21. Demandez-vous maintenant, combien d'œuvres ou d'actes ai-je fait qui aient été accomplis ou suscités par Dieu et avec son aide? Combien d'œuvres ai-je faites que Dieu m'a spécifiquement dit de faire et qu'ensuite il m'a aidé à accomplir? Les premières œuvres pour tous sont la repentance, Dieu vous incitant ou vous montrant de quoi vous repentir, puis vous, dans la tristesse, prenant la résolution de faire mieux, repentance. Comme Paul l'a dit, j'ai montré qu'ils doivent se repentir, se tourner vers Dieu et faire des œuvres conformes à la repentance. Acte 26, 20. Bien qu'on ait pu vous dire que croire en Jésus est votre excuse pour contourner le jugement, c'est un mensonge. Le jugement final de chaque homme est fondé sur les œuvres, et je vis les morts, petits et grands, se tenir devant Dieu, et les livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés, d'après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres. Et la mer rendit les morts qui étaient en elle. Et la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chaque homme fut jugé selon ses œuvres. Apoc 20, 12-13 Car le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chaque homme selon ses œuvres. Matthieu 16, 27 Je suis celui qui sonde les esprits et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon vos œuvres. Apoc 2, 23. Moi, l'Éternel, je sonde le cœur, j'éprouve l'esprit, afin de rendre à chaque homme selon ses voies, et selon le fruit de ses actions œuvres. Jer 17 dit, ne rendra-t-il pas à chaque homme selon ses œuvres? Pro 24, 12. Le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chaque homme selon ses actes. Rome 2, 5. Si l'œuvre de l'homme sera mise en évidence. Car le jour du Seigneur la déclarera, parce qu'elle sera révélée par le feu, et le feu éprouvera et testera l'œuvre de chaque homme, de quelle nature elle est. 1 Cor 3:13. Car chacun sera salé de feu. Marc 9:49. La foi sans les œuvres est morte. Ceux qui n'ont pas d'œuvres animées et suscitées par Dieu verront leurs âmes détruites et leurs esprits exclus du ciel. Les premières œuvres d'un vrai croyant sont des œuvres de repentance. Les guides aveugles disent que, puisque la grâce est gratuite, il n'y a rien à faire pour le salut. Gratuit, c'est gratuit. Je dis vrai, la grâce est gratuite, mais le salut ne l'est pas. Le salut vient par le long processus des dons de la grâce, avec une foi attestée par des œuvres, en commençant par la repentance. Nous sommes sauvés par grâce, à mesure que la nature pécheresse meurt sur la croix, et notre mort n'est pas la preuve que nous serions dignes des dons de Dieu, non, seulement la honte d'être si indignes. Souvenez-vous, Jésus a dit à ses disciples de prêcher la repentance avec la rémission des péchés. Luc 24, 47. La fausse grâce, faux salut garde le pardon et ignore la repentance. Les guides aveugles ne savent même pas comment se repentir. C'est ce à quoi ce site web est consacré, enseigner comment recevoir la conviction qui exige la repentance, et comment recevoir la grâce purificatrice et transformatrice qui conduit à la pureté et au royaume des cieux, le paradis sur la terre. Paul encore, quoi donc, pécherions-nous, parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce, certainement pas. Romains 6, 15. Si la grâce n'est pas une permission de continuer à pécher. Nous ne sommes pas condamnés pendant que nous attendons d'être purifiés, mais selon Paul encore, nous devons continuer à travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Philippiens 2, 12. Selon Paul encore, mes grâces soient rendues à Dieu. Vous qui étiez auparavant esclaves du péché, vous avez obéi de tout cœur à la forme d'enseignement qui vous a été transmise. Romains 6, 17. Il parle à des personnes alors affranchies du péché, ayant obéi à la doctrine qui les a rendues libres du péché, ayant donc été affranchies du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Romains 6, 18. Par l'obéissance à la doctrine mentionnée en Romains 6, 17, ils ont été affranchis du péché et sont devenus esclaves de la justice. Mais maintenant, affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit récompense la sainteté et pour fin la vie éternelle. Romains 6, 22. Vous ne pouvez pas servir Dieu à moins d'être libre du péché. La vie éternelle vient après avoir produit un fruit de sainteté. Et enfin, Paul résume tout en conclusion. Car si vous vivez selon la chair, la nature pécheresse, vous mourrez, mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Romains 8, 13, 14. Ainsi donc, puisque nous avons ces promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, achevons la sainteté dans la crainte de Dieu. 2 Corinthiens 7. En voilà donc, achevez la sainteté. Je n'imagine pas d'exigence plus forte que d'être parfaitement saint. Ce n'est pas un christianisme de façade, c'est l'exigence réelle d'être chrétien. Paul encore, parlant à des chrétiens mûrs qui ont été affranchis du péché et jouissent de la sainteté. Mais maintenant, affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit récompense la sainteté et pour fin la vie éternelle. Romains 6, 22. Qu'en est-il des commandements moraux de la loi? Aimer ton prochain comme toi-même, et ne pas voler, et ne pas commettre d'adultère, et ne pas mentir, et ne pas convoiter, et ne pas tuer, et honorer ton père et ta mère. Il est évident qu'observer ces commandements n'est pas des œuvres de la loi. Une œuvre, ce n'est pas ne pas tuer aujourd'hui, ou ne pas commettre d'adultère ce soir, ou ne pas mentir cet après-midi, ou aimer son prochain aujourd'hui, ou consacrer une heure à aimer Dieu, etc. Pire encore, puisque quiconque parmi vous cherche à être justifié par la loi est déchu de la grâce, et Christ ne vous est plus d'aucun profit. Galates 5, 4. Alors, selon cette logique défectueuse, qui prétend que l'observation des commandements moraux de la loi serait des œuvres de la loi, si vous décidez de ne pas voler, vous avez perdu votre salut par la grâce et la foi en Jésus. La logique tordue de la chrétienté, qui se contente de la foi en Jésus, tout en ignorant les commandements moraux et en classant leur observation comme des œuvres, fait de Jésus l'auteur de l'illégalité. Elle fait du sang de Jésus une chose profane, un prétexte pour continuer dans le péché et ignorer toutes les lois, une licence pour l'immoralité, et en enseignant cette doctrine, les guides aveugles de la chrétienté ont jeté la loi derrière leur dos pour conduire des milliards de leurs croyants dans le gouffre de la destruction. De la parole du Seigneur au-dedans, ils chancellent vers l'abattoir, ivres de leur convoitise, passion, orgueil et plaisir. C'est une erreur doctrinale d'une ampleur colossale, c'est une rupture de l'alliance de Dieu. Les commandements moraux sont le cœur moral de la loi mosaïque et sont inclus dans la loi écrite dans le cœur de chaque homme, dont la conscience rend témoignage, tandis que leurs pensées les accusent ou les excusent, Rome 2, 8-16. Les commandements moraux n'ont pas été annulés et doivent être obéis par tous ceux qui veulent plaire à Dieu. Pour plus de détails sur les œuvres et la loi intérieure qui doit être obéie, voir la page web « Until your words and deeds are prompted by God, you must obey the inner law and heart of every man ». Conclusion de la réfutation. Les enseignements patients de Paul, expliquant en détail comment fonctionne le salut, ont été déformés en la doctrine diabolique du salut instantané. Si les fausses doctrines de grâce salut s'appuient sur le « cherry-picking » de quelques versets de la Bible au sujet de la grâce, qu'ils tordent pour leur faire signifier le salut, tout en ignorant la prépondérance d'autres versets dans toute la Bible qui changent totalement leur sens lorsqu'ils sont considérés seuls, en promouvant le salut instantané par la foi et la grâce, ils excusent le mal comme étant le bien, ils font du noir du blanc, et ils vous demandent de les payer pour leur erreur, alors même qu'il leur est expressément interdit. 1 Pie 5, 2 et Actes 20, 29-31 nous dit « Même du milieu de vous, des hommes se lèveront et, en disant des choses perverses, déformées et corrompues, s'efforceront d'entraîner les disciples après eux. Ils ont été instruits par des collèges bibliques plutôt que par Christ lui-même. » Voyez quelques écrits de George Fox sur ses guides aveugles. La grâce instantanée est la voie large qui mène à la destruction, par opposition à la voie étroite, resserrée par la pression, qui mène à la vie que peu trouveront. Le monde veut un Christ qu'il excuse de vivre comme il l'entend. C'est pourquoi la fausse grâce, le faux salut instantané a balayé les sectes déficients, de faux maîtres leur disant ce que leurs oreilles qui démangent veulent entendre. Détendez-vous, dites seulement que vous croyez en Jésus, faites-vous laver par l'eau, et par magie vous renaissez, libre de continuer votre nouvelle vie dans le péché, mais assuré d'échapper à l'enfer et d'aller au ciel à votre mort. Détendez-vous, détendez-vous, grâce, grâce. Votre bon sens ne vous disait-il pas que le faux salut instantané que votre prédicateur vous a vendu était au moins un peu suspect? Que quiconque invoque le nom de Christ se dit chrétien se détourne de l'iniquité, illégalité, péché. 2 Tim 2, 19 Pour en savoir plus sur la manière d'accéder à la grâce de Dieu, voir How to Benefit from the Changing Power of God. Le but de ce site web est de montrer comment être libéré du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, ce qui mène à l'union avec Dieu dans son royaume.